mortifier les sens, comment dire, notre sensualité. Alors, en ce qui concerne la gourmandise, eh bien, c'est un effort par rapport à tout ce qui plaît à la bouche. Et la gourmandise, c'est mortification de ce qui va trop vite. On mange, ça nous plaît tellement qu'on mange vite. Donc on mange plus lentement. À la limite, un épicurien vous dira, eh bien, c'est encore mieux. Trop vite, trop grande quantité. Et là, vous mangez, et puis à la fin, certains se faisaient vomir pour manger encore plus. Et trop cher, dépenser trop d'argent pour sa nourriture. Et je vous assure qu'actuellement, la gourmandise, elle se place plutôt là. Parce que les bobos, qu'est-ce qu'ils claquent comme argent pour leur nourriture? Ah oui. Ça, il y en a en ce moment, à leur mort, qui doivent se prendre des remontées de bretelles en matière de dépenses de nourriture, disant mais vous pouviez pas aider telle personne dans votre famille, telle personne, vous pouviez pas, avec cet argent, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, j'ai pris un hamburger à 40 euros.
Ça existe?
Ah bah bien sûr, le burger bobo en ce moment, ah oui, des burgers au foie gras ou des je sais pas quoi.
Non.
Des burgers à
oui.
Des burgers à la truffe.
Non mais, si vous voulez, une fois de temps en temps, pour faire travailler les cuisiniers, pour faire travailler un restaurant, pour faire travailler un hôtel, pourquoi pas? Faut pas non plus être puritain de la gourmandise. Pour prendre un bon vin, un bon... Mais c'est la fréquence de la dépense qui est de la gourmandise.
Dans les habits, c'est pareil, là.
Ah, dans les habits, oui. Mais là, ça sera dans l'avarice, le désir de posséder des biens. Oui.
Le cas emblématique qu'on a vu avec la surconsommation de Nutella, je ne sais pas si vous avez vu.
Oui.
Là, c'est plus l'avarice ou la gourmandise?
C'est la gourmandise, là. C'est le goût du Nutella qui est affolant.
Parce qu'il y a aussi l'avarice parce qu'il y a aussi la promotion sur les... Donc il y a ça aussi.
Les couches Pampers.
Oui.
Là, c'est pour faire des stocks.
Ouais.
Ça, c'est par économie. Non, la deuxième... non, c'était...
Bah là, je parlais plutôt des...
Oui, mais ils ont fait à 70% sur des couches.
Peut-être.
Et là, bon, c'est parti moins... C'est moins parti vers les 50-70 ans, les gens ont pas... Oui, non, mais ça, c'est impressionnant. Mais ça, c'est une société déréglée, hein. Oui. Alors, la luxure, comment on mortifie les sens? Alors, leçon de choses, attention. Notre corps fonctionne tout à fait bien. Notre corps est sexué. Si un homme a un membre viril, si une femme a un vagin, c'est pour l'acte sexuel. C'est pour faire pipi aussi pour l'homme. La femme, c'est par ailleurs, donc c'est pas là. Mais pour l'homme, ça pour le coup, il pourrait avoir son membre pour uniquement faire pipi. Seulement, c'est aussi pour déposer la semence dans le corps de la femme. Nous sommes intrinsèquement sexués. Donc tous ceux qui font le vœu de chasteté ou qui sont eunuques pour le royaume des cieux, il y a une condition. C'est qu'ils puissent, ils ne deviennent pas fous. Voyez ? Parce que s'ils ont une sensualité assez forte, il vaut mieux pas qu'ils fassent ce vœu de chasteté. Voyez ? S'ils sont sur les charbons ardents toute leur vie, ça va pas du tout. Pour entrer au séminaire, il faut être assez calme au point de vue corporel. Sinon, c'est une horreur. Parce que le corps en bonne santé fonctionne bien. Et donc, à partir du développement sexuel et de la puberté, eh bien, tout fonctionne très bien pour pouvoir poser l'acte conjugal, l'acte sexuel complet. Déposer la semence dans le corps de la femme et que la semence fasse son masculine fasse son chemin, que les spermatozoïdes rencontrent les ovules et que des enfants viennent. Et c'est la nature humaine. Il n'y a aucun péché à poser l'acte sexuel, il n'y a aucun péché à ressentir du plaisir dans l'acte sexuel. Et si vous voulez, partons il y a 100 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a 2000 ans, et vous n'aviez pas beaucoup de moyens de tricher dans la sexualité, et bien voilà. Donc vous aviez un jeune homme de 18 ans, 20 ans qui se mariait, sa femme qui en avait 16, 18, et puis voilà, hein, au 18e enfant, l'un des deux mourait avant, après, et puis les générations qui étaient là recommençaient alors il y avait des mariages arrangés, bien sûr, il y avait des mariages forcés, bien sûr. Il y avait aussi des hommes et des femmes qui s'aimaient, hein, sinon il n'y aurait jamais eu de poème. Il n'y aurait jamais eu d'histoire d'amour. Et pourtant, il y en a qui sont très anciennes. Donc, il y a eu des mariages d'amour, hein, on n'a pas attendu le XXe siècle. Hein. Et au Moyen-Âge aussi. Voilà.
D'ailleurs, je crois que l'Église a interdit les mariages arrangés.
Ah, l'Église condamne les mariages arrangés? Non mais arranger sans aucun avec arranger et forcer.
Oui.
Mariage forcé, ben, la personne ne veut pas se marier avec cette personne et on le dit, on a besoin du champ d'à côté, on a besoin du château d'à côté.
Avant, ça,
oui, tout à fait. Mais ça c'est avec le développement de la bourgeoisie et de la noblesse. Organisé avec un intérêt patrimonial premier sur l'épanouissement et le bonheur de leurs enfants.
C'était le lignage.
Oui, mais enfin, on pouvait laisser aussi les gens tomber amoureux de telle famille plutôt que de telle autre famille. Les mariages arrangés n'étaient pas systématiques dans les familles. Il y avait des pères et des mères qui, voyant leur enfant tomber amoureux de ce prince plutôt que de cette autre personne, disaient, bon, il est moins riche, ou le château est à 50 km, ou alors ils sont rencontrés, c'est une noblesse du Nord et elle va se marier avec quelqu'un de Clermont-Ferrand, tant pis, ça nous fera voyager, mais allez, non, tu prendras autour d'Arras.
Après, il y a aussi des... c'est-à-dire que les parents peuvent aussi donner leur avis sur
les mariages. Ah oui. Sur le caractère d'une personne. Autre. Pour revenir à la mortification du corps, donc le corps fonctionne très bien. Donc à partir de 12-14 ans, tout se met en place. À 16 ans, vous pouvez être père de famille sans problème. À 18 ans, encore mieux. Et si vous n'êtes pas encore marié, vous produisez quand même de la semence et elle s'évacue naturellement. Si vous ne provoquez pas seul ou avec une autre personne sans être marié, le départ de cette semence, eh bien, elle peut partir de diverses manières. Soit pendant votre sommeil, soit pendant une excitation naturelle, soit par un arc réflexe parce que les spermatozoïdes sont trop nombreux et il faut que ça parte. Et donc là, vous avez un homme qui veut être chaste, qui ne veut utiliser sa sexualité que avec une épouse et qui se retrouve avec une tension sexuelle très importante le soir ou dans la journée même éventuellement. Enfin, voilà. Et là, c'est pas évident. Alors c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Mais il y a des femmes qui sont très sensuelles et qui sont très qui au moment de la au moment de l'ovulation sont extrêmement sensibles et donc sont très électriques et ont besoin d'une satiété sensuelle. Mais c'est naturel. Alors pourquoi alors on nous embête à nous dire que si on le provoque volontairement, c'est un péché. Et bien parce que il faudrait que ça s'évacue naturellement et pas dans d'une simulation de l'acte complet, naturel de l'homme et de la femme. Ah oui, mais c'est compliqué, j'ai un sommeil léger. Et à chaque fois que que le corps veut expulser, moi je suis totalement éveillé. Et j'ai beau me retourner comme une carpe dans mon lit, à un moment donné, j'aide avec les mains, voyez, pour que je puisse dormir. Eh bien, l'Église, mais ça fait des siècles, hein, l'Église vous dira, confessez-vous quand même, parce que c'est quelque chose de grave, la sexualité. Et que si vous recherchez, d'une manière ou d'une autre, votre plaisir, seul, eh bien, vous pourrez, à un moment donné, glisser. Et le jour où votre femme ne sera pas disponible, que vous serez célibataire géographique et tout ça, vous voudrez peut-être satisfaire votre sexualité sans votre femme. Mortifiez-vous. Empêchez-vous de provoquer volontairement l'intensité de ce plaisir sexuel. Ah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sais pas, vous mettez un seau d'eau froide avec des glaçons à côté de votre lit, tous les soirs, et puis, à chaque fois que vous avez un problème. Ou alors, vous appelez une vieille dame de l'immeuble à chaque fois, bling, bling, et la vieille dame arrive, sonne chez vous, et vous vous levez, et tout s'arrête. Hein. Donc vous ouvrez la porte, et dit « Bonjour madame, vous êtes en peignoir ?» Et elle dit « Vous m'avez appelé ?» Oui, c'est simplement pour me changer les idées. Voilà. Certains prennent une bande dessinée, d'autres prennent un livre sur la formation des strates, dans le Jurassique, ou alors l'élaboration des différents minéraux et les structures minérales. C'est des livres très intéressants. Et c'est une mortification très importante parce que votre intelligence ne pense plus aux sensations physiques que vous avez et vous lisez. Voilà. Les diamants, par rapport aux topazes, se forment dans des terres plus ferreuses, des choses. Hein. Voilà. Ou alors, la flagellation. Là, c'est autre chose. Vous levez, vous prenez un petit fouet amusant, et puis plang, plang, clang, clang, clang. Et là, ça vous calme. Vous voyez ? Mais si vous êtes moine ou prêtre, et que vous avez des élans charnels fréquents, vous n'allez pas vous flageller toutes les nuits. Hein. Votre voisin, à la fin, c'est bon. Hein. La flagellation de règles chez les franciscains, qui a disparu, je crois. Hein, enfin bon. Mais chez les franciscains observants, c'est le vendredi. Ou peut-être deux ou trois fois par semaine. Et encore, le temps d'un miserere. Donc ils prennent le psaume, ils disent le psaume miserere, et plan, 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 plan. Ça prend 3 minutes. Et on ne doit pas aller jusqu'au sang. Donc, on doit... C'est simplement pour supporter la douleur physique. En réparation... c'est absurde de se faire mal alors qu'il n'y a aucun besoin. C'est que la volonté résiste à une douleur physique. Vous avez une mortification qui peut consister à couper du bois. Vous voyez ? Là, c'est plus utile que de se flageller. Mais vous voulez dépenser votre énergie. Vous êtes là, vous dites, je vais le tuer, ce voisin. J'en peux plus. Vous avez une très grande nervosité. Hein, et votre corps est en pleine ébullition, et bien vous prenez des bûches et vous coupez. Voilà. Ça vous calme. Oui. Il y a différentes mortifications. Okay. Vous avez, oui.
J'ai entendu, je crois, j'ai lu ça dans un livre, que le sport c'était bon pour. En fait, c'est conseillé par des prêtres et tout ça pour renforcer la volonté.
Bien sûr, oui. Parce que il y a une pénibilité. Les muscles sont fatigués, on doit encore.
C'est juste spirituellement.
Ah oui, oui, oui. Mais, et surtout, ça délasse. Au bout de 15 minutes, vous sécrétez de la morphine.
Des endorphines.
Et ça vous décontracte et c'est naturel. Parce que vous détruisez des cellules quand vous faites du sport. Donc, il y a une réponse du corps qui dit non, 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 on devrait s'arrêter. Non, je continue. Vous voyez ? Et vous avez aussi les silices. Alors, les silices en laine crue, certains les portaient en permanence. Ça gratte. Et vous ne vous grattez pas. Donc, vous êtes là. Et le fait de ne pas vous gratter, alors que ça vous agace au plus haut point, et ça provoque même des, ça maîtrise vos élans. Non seulement charnels, mais même de volonté. De rancune, de colère, d'agressivité, ça peut développer chez vous une véritable vertu. Et si vous le faites d'une manière extrêmement naturelle et stoïcienne, c'est uniquement pour être une personne calme et pour pouvoir avoir encore plus de pouvoir et pour pouvoir justement maîtriser les autres. Et si vous le faites pour aimer les autres, pour faire du bien aux autres, la fin est différente. Vous avez des gens qui se mortifient pour être vertueux, pour être calme et pour avoir plus de pouvoir. Ils sont intelligents, ceux-là. Ceux qui résistent à aucune de leurs pulsions, ben, ils finissent comme...
J'ai pas compris.
Et ben, vous avez des gens qui sont athées, agnostiques ou même lucifériens, qui vont pas se répandre dans la débauche, qui vont pas prendre de drogue pour être les chefs.
D'accord.
Hein? Parce que c'est les cons qui, vous savez, qui sont...
Oui, c'est les pratiquants.
Ouais. Mais chez un chrétien, la mortification corporelle, c'est pour maîtriser sa colère, maîtriser ses rancunes, maîtriser sa nervosité. Voilà. Alors, de nos jours, il y a très peu de mortification corporelle. Au Carmel de Créteil, vous pouvez avoir un silice en laine. On porte une heure par jour. Il y en a qui le portent plus longtemps, mais alors après ils ont des rougeurs, une vraie barre, voilà. Et puis vous avez aussi des silices avec des petites pointes en fer. Donc là, vous avez des petites pointes qui sont pas affûtées, donc ça pique. Et vous devez pas le retirer, en fait. Alors, ça va moi. Voilà, vous l'aviez mis. Je sais pas, un truc sur les épaules, et là, clac, voilà. Et, ou alors, vous faites du vélo, et, je sais pas, vous êtes dans le métro, et quelqu'un vous poursuit, et voilà. Vous regrettez d'avoir mis votre silice, à ce moment-là. Voyez. Eh bien, ça vous fait rire, mais Jean-Paul II avait un silice. Alors, parfois, vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup d'élan sensuel et qui quand même ont un silice. Vous dites, pourquoi ? Eh bien pour ne pas se mettre en colère, pour se maîtriser au point de vue de l'agacement physique et la nervosité qu'on a et la maîtriser.
Parce qu'en fait les mortifications corporelles c'est uniquement
pour faire le bien.
Non, non,
pour maîtriser sa sensualité, mais aussi voilà, pour maîtriser sa volonté.
Voilà, moi, ce que j'avais compris.
Oui. Mais les deux, hein, en général, les deux. Et puis, vous en avez qui font ça uniquement pour réparer les péchés des autres. Et alors, parfois, le bon Dieu, lui, il sert sur un plateau la mortification corporelle. Vous avez Saint François d'Assise, il veut réparer pour le monde entier, il dit, eh bien, est-ce que tu voudrais avoir les stigmates? Hein, on te perce les mains et les pieds. Il l'a pas demandé exactement. Hein. Mais le bon Dieu a envoyé un séraphin qui lui a percé les mains, les pieds et le côté. Et le Padre Pio, c'est au XXe siècle. Il priait pour le salut des âmes à cause des péchés. Lui, il ne péchait pas énormément. Hein, le Padre Pio n'est pas un grand pécheur. de tout ce qu'on sait de sa vie, franchement, c'est pas vraiment. Ou alors peut-être que lui pensait qu'il pourrait pécher dans l'avenir s'il se mortifiait pas. En tout cas, comment ? Il avait du caractère, mais enfin, il a jamais frappé personne. Comment ?
Frapper dans le sens où il a mis des petites gifles.
Ah oui, mais dans ça, des conditions.
Dans des conditions particulières.
Là, quand il voyait l'ange du. Comment il s'appelait du père de Robert et que le père de Robert lui dit non, il rigole, il lui a mis une gifle.
Bon, oui, mais ça c'est un italien, ouais, on va dire.
Il voyait l'ange gardien et il était tellement beau que.
Oui. Mais ça, c'était pour le ramener à la réalité, oui, hein, oui, c'est autre chose. Oui, oui. Mais voyez-vous, le Padre Pio, lui, va souffrir énormément. Et en plus, mortification particulière, il va supporter d'être frappé. C'est comme Saint Curé d'Ars. Vous avez des démons, et les démons ont action sur la matière, donc ils concentrent de l'air pour que ça soit suffisamment solide, et ça fait comme des points. Parce que les démons n'ont pas de corps, ils n'ont pas de points, ils n'ont pas de... Donc ils concentrent de la matière, ils agissent sur la matière. Vous voyez, si je parle et que ma feuille passe par comme ça, c'est ou mon ange gardien qui rigole, ou c'est un démon. Oui. Mais normalement, quand des objets inanimés, inertes se déplacent, c'est des esprits qui le font. Et là, quand un esprit veut vous frapper, eh bien, il concentre de la matière. Il concentre de l'air, par exemple, et ça vous fait comme un coup de poing. Ou alors, il vous porte et il vous jette contre le mur. Il vous jette contre la table. Et le Padre Pio, lui, il était projeté dans sa cellule, en haut, en bas, c'était terrible.
Normalement, ça, le démon, je dirais là.
Il a la permission de Dieu de frapper un être humain pour le rendre fou, pour le rendre triste. Et le Padre Pio, lui, eh ben, je supporte ça. Pour le salut des âmes.
Est-ce que le démon, il a le pouvoir qu'on lui donne aussi ?
Non, qu'on lui permet. C'est naturel au démon d'avoir son pouvoir. Mais il ne peut pas entrer dans l'âme. Et les biens extérieurs. L'avarice. Alors là, la mortification de l'avarice, eh bien, c'est les achats compulsifs. Hein. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. On voit les gens qui sont des accumulateurs compulsifs. Et on voit ceux qui sont tristes parce qu'ils ne sont pas riches. Les avares ne sont pas forcément des riches. Ça peut être des pauvres. Relire la consécration de Saint Grignon de Montfort, Saint Louis Grignon de Montfort. Tout notre être est fait pour Dieu. Le péché, c'est manquer son but. On se met au centre du monde. Les biens matériels prennent la place de Dieu au moins par ces quatre péchés capitaux. Pour les trois autres péchés, on fuit ce que l'on considère comme un mal, l'assédie ou la paresse. Aller vers Dieu, c'est exigeant. Dans l'assédie, on craint la difficulté sensible. Du coup, on baisse les bras, on choisit la facilité. Et c'est la crainte de l'effort. L'effort même de prier, l'effort de connaître Dieu. Mais aussi l'effort de faire du bien aux autres, l'effort de rendre service, l'effort de travailler. Voilà. L'effort d'écouter quelqu'un, l'effort de consoler quelqu'un. On fuit le bien qui coûte. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas matériel, hein, c'est... La jalousie, je me sens menacé par le bien du prochain, alors je dénigre. C'est pas seulement ça, la jalousie. Hein. On est triste du bien de l'autre, mais on le désire aussi. Et entre l'envie, c'est au sens propre, vouloir ce que l'autre possède. La jalousie, c'est d'être triste que l'autre possède quelque chose. Qu'on n'a pas ou qu'on a. C'est très curieux, la jalousie. Mais le péché de Satan, c'est la jalousie. Satan est tombé par jalousie. Dieu était tellement puissant qu'il en était jaloux. Et pour comprendre le mot jalousie, vous avez Saint Paul qui dit une chose très amusante. sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu a rendu les Juifs jaloux en transmettant la foi aux nations païennes. Ils sont là, on avait les promesses, on avait la vraie religion, et vous donnez la vraie religion à d'autres qu'à nous, ça les vexe. Et le bon Dieu, il est là. Vous méritiez plus de le garder que pour vous. Et on le transmet à tout le monde. Il les a rendus jaloux. Et vous avez des Juifs, justement, qui n'aiment pas les chrétiens parce que ils savent confusément que Jésus est leur Messie et on leur a piqué leur Messie. Si, si. Vous avez des Juifs qui croient sincèrement que Jésus n'était pas le Messie et que ça serait une erreur pour eux et une trahison par rapport à Dieu de croire que cet imposteur est le Messie. En général, c'est les plus pieux, observants et gentils. Ils craignent de devenir chrétiens parce qu'ils craignent d'être infidèles. D'autres se posent des questions quand même. Comment ça se fait que ils ont les psaumes, ils ont ils ont tout. Et nous, comment ça se fait que nous on est peu nombreux et eux ils sont des millions et des millions à croire en ce que a dit Abraham, nos prophètes. C'est quand même incroyable. Ah oui, c'est quand même incroyable. On pourrait se poser quelques petites questions. Et puis d'autres qui sont amers en fait. Et puis d'autres, alors là, ils sont terribles. Ils savent que Jésus était leur Messie et ils détestent le Messie, et ils détestent ceux qui vont faire du Messie, non pas celui qui donne le pouvoir terrestre et temporel, mais celui qui donne un pouvoir uniquement spirituel. Et c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Et c'est en cela que saint Paul dit que certains Juifs, pas tous les Juifs, certains Juifs empêchent la propagation de l'Évangile et qu'ils sont les ennemis du genre humain. Vas-y, vous vous rendez compte? Je ne sais pas encore combien de temps ce passage de saint Paul sera autorisé, mais c'est dur. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils empêchent l'Évangile. La colère, qui est une passion, mais qui est là un péché capital lorsqu'elle est débridée, cette passion. On réagit contre quelque chose que l'on considère injuste, mais de façon disproportionnée. D'après les pères de l'Église, les péchés capitaux sont des maladies de l'âme. Ils ne sont pas forcément malicieux en tant que passion. Mais liés à la malice, ce sont des péchés capitaux. Oui.
Si on ressent de la colère mais qu'on ne l'exprime pas, c'est quand même un péché ou pas?
Oui, bien sûr. Les colères rentrées. Oui. Mais vous avez des colères, des saintes colères. Vous avez une institutrice qui est là, vous avez une classe qui n'écoute pas tout ça, et qui hausse le ton, et qui cède par la passion de l'irascible à dire quelque chose de fort. La colère n'est pas intrinsèquement mauvaise. Ici, le péché capital de colère, c'est la colère débridée, disproportionnée. La jalousie saine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, dans un terme un peu trompeur, un faux ami, c'est le zèle. Vous voyez, c'est l'émulation. Ah, il a sauté 1m50, moi je vais sauter 1m70.
Ah, l'émulation, non?
Oui, et on va le faire, et lui, on n'arrive pas à sauter 1m70, on va dire, ben tant pis. Ah, mais c'est extraordinaire que tu aies sauté 1m50. Bravo, félicitations.
C'est la bonne jalousie alors.
Voilà. L'émulation. C'est l'émulation. C'est ce qu'on appelle le zèle.
La jalousie amoureuse alors?
La jalousie amoureuse, pécamineuse, c'est j'ai mon bien, qui est ma femme, et un autre veut me la prendre. Ou ma femme veut me quitter.
Ça mène au meurtre.
Et ça mène au meurtre.
Non, mais si on la porte, on est tous les deux sur.
Comment?
Si on est tous les deux sur la même fille, et qu'on est jaloux. Que l'autre.
Ça
peut être de l'émulation aussi.
Oui, ça peut être de l'émulation pour la séduction. Oui, mais la jalousie, c'est lorsqu'on a déjà le bien. C'est pas par, quand on l'a pas encore.
Ah. Mais... Bah non, s'il a pas le, s'il a pas réussi à sauter le, je sais pas moi, il devait sauter le 100 mètres, il a pas eu le résultat. Donc l'autre, il a déjà eu le résultat.
Oui.
Ah non, bah
non. Non, c'est l'autre.
Oui, oui, non.
Oui, mais c'est un bien passager. C'est la jalousie stable, c'est la jalousie par rapport à un bien stable. On n'est pas dans la compétition. Oui.
La justice humaine, le crime passionnel est jugé différemment.
Tout à fait, parce que c'est une passion.
Dans le français classique, c'est positif aussi. J'ai pour vous une jalousie, c'est-à-dire j'ai un intérêt.
Oui, mais c'est une licence poétique. Au sens strict, le mot la jalousie est un péché. Mais au sens, dans la licence poétique, c'est. D'ailleurs, le mot lui-même est traduit, non pas Dieu a un zèle pour vous, mais Dieu. Est un dieu jaloux.
C'est synonyme de zèle.
Oui. Mais le terme latin, ça sera le zèle. Dieu a du zèle pour nous. C'est-à-dire qu'il veut notre bonheur. Il ne veut pas qu'on appartienne au mal, au péché et à Satan. C'est une saine jalousie de la part de Dieu. Il nous aime et il ne veut pas qu'on aime quelqu'un, quelque chose de mauvais pour nous.
Donc la traduction est une licence poétique.
Aussi. Et du coup, de nos jours, quand on dit, Dieu est un Dieu jaloux, du coup, les anticléricaux ou les anti-religieux disent « Ah ben vous voyez bien, hein, c'est un Dieu méchant, jaloux, colérique. » Il est jaloux de notre bonheur, il est jaloux de notre amour parce qu'il sait que si on l'aime, on sera heureux. Et donc, c'est vrai qu'il est exclusif. Parce qu'il sait que les autres dieux ne sont des inventions. Et donc il désire notre bonheur, il désire la vérité pour nous. Et c'est pour ça que le dialogue interreligieux ou l'écuménisme doit à un moment aboutir à la pleine connaissance de Dieu. Dieu ne veut pas que des chrétiens mettent de côté la Vierge Marie. Parce que avec les siècles, il lui a donné plus d'importance pour être un instrument de salut pour les hommes. Comme les hommes ont le cœur un peu dur, quand sa divinité a été assurée dans l'enseignement, dans la connaissance, il a placé sa maman pour attirer des âmes. Voilà. Quand il n'y a pas eu d'ambiguïté sur le fait que Marie soit une déesse ou machin, donc la Vierge Marie a été assez effacée pendant plusieurs siècles, quoique, hein, moi j'ai vu des fresques à Rome du 4e siècle, du 5e siècle, où vous avez la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus. Hein, donc c'est Marie est là et l'enfant est dans un limbe. Et puis en Orient, vous avez des représentations de la Vierge Marie, il y en a tant et plus, et très rapidement. Mais pas tout à fait rapidement, il faut attendre 300 ans, 400 ans. Mais alors après, boum! Pourquoi? Et parce que Dieu sait que les hommes, les femmes, disons quand même que une femme, une mère, fasse partie du plan du salut, c'est beau.
Oui. Pourquoi on dit que l'icône de Częstochowa, elle a été peinte par Saint-Luc? C'est pas vrai?
Non, pas celle-ci.
Peut-être pas celle-là. Ou elle a été inspirée de Saint-Luc. Parce que Saint-Luc a peint des portraits de la Vierge Marie, peut-être un ou deux ou trois.
Les prototypes, ce qu'on appelle les prototypes. Et puis après,
oui, mais il les a peints vraiment. Hein,
les icônes sont dérivées.
Mais ensuite, les moines qui avaient vu, comme ils savaient que Saint-Luc avait vu la Vierge Marie, ils se disaient, on va reproduire ce qu'il a fait.
Donc, voilà, il y avait déjà des...
Donc la finesse du visage, comme ci, comme ça. Bon, ensuite, avec les siècles, les artistes. Ah oui, oui, oui. Qu'il y ait eu un portrait de la Vierge Marie, on l'attribue à Saint-Luc d'une manière tout à fait légitime. Mais ils sont. Saint-Luc n'était pas Léonard de Vinci. Donc, peut-être que le visage de la Vierge Marie était relativement stylisé par la main de Saint-Luc. Saint-Luc. Était-il il faisait du figuratif? Probablement pas. Les yeux, tout ça, C'est avec un perfectionnement de l'art qu'on va faire parfois des peintures très très vivantes. Il y a 2000 ans, l'art était pas représentait pas de manière très pour très les visages. Quand on représentait l'empereur, pourtant on payait cher les peintres, en général, une fresque d'un empereur, tout ça, le visage est relativement stylisé. Hein. Les yeux sont un peu grands.
Les portraits du Fayoum, c'est très, très, très naturaliste. Mm-hmm. C'est vraiment des portraits comme
ouais, même pendant l'Égypte
romaine. Des portraits de gens qui étaient vraiment...
Certains étaient très bien faits, oui. Par exemple, vous avez des peintures romaines, mais des Romains d'Égypte, sur des momies, hein, qui sont impressionnantes.
Les fresques,
mais c'est un art qui existait, qui a été perdu. Comment?
Quand on voit les fresques à Pompéi ou des trucs comme ça.
Ah oui, il y en a qui sont très fines. Et aussi, quand vous visitez les musées du Vatican, vous pouvez pas vous imaginer la statuaire romaine, grecque et romaine. Quand on pense que pendant près de 1000 ans, on savait plus faire un chien, et eux, ils faisaient des chiens avec les nerfs, les machins, tous les pattes, tout ça, les dents. Mais parce que on prenait moins le temps, on était... Pour que l'art se développe, il faut aussi des moments de richesse et de paix. En Normandie, je suppose que le développement de l'art était peut-être un peu perturbé pendant 2-3 siècles par les invasions de Norvégiens qui leur coupaient la tête, forcément. Oui, oui, oui. Mais Fra Angelico, vous voyez, avec sa naïveté, quand même, à un moment donné, il est plus naïf. Le visage de l'enfant Jésus de Fra Angelico est impressionnant. À croire qu'il l'a vu. Il l'a probablement vu. Saint Antoine de Padoue a vu l'enfant Jésus. Enfin, Jésus, lui, est ressuscité adulte. Donc quand il fait une image de lui, quand il apparaît comme sous la forme d'un enfant, il devient pas enfant, et il transforme pas son corps. Son corps est adulte, il a 30 ans, 33 ans, pour toujours. Enfin, voilà. Donc vous avez ensuite d'autres explications, mais je m'arrête là.